Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Sylvain revient. Alors vous êtes en train de faire la fête et ouvrir un cadeau. Et il dit, la sécurité m'a rappelé d'urgence. Est-ce que vous pouvez faire un état des lieux de la situation ?
Tout est réglé. On vous a dérangé pour rien.
D'accord, mais il y a eu un incident ce soir ?
On vous a dérangé parce que...
Vous avez oublié votre téléphone.
En fait, vous aviez oublié votre téléphone.
En vrai, juste pour ça, vous avez bien fait. Je prends mon téléphone.
Voilà, et après, bon, il y a eu des collisions de satellites.
Quoi, il y a eu des collisions de satellites ?
Des
alertes de collisions de satellites ?
Oui, mais bon, c'est notre quotidien, on gère ça merveilleusement.
Bah non, pas du tout, vous êtes là depuis 15 jours. Qu'est-ce que vous avez fait ?
Non, mais qu'un jour, on a le temps d'apprendre. On a, de façon très autonome, je dirais, des crises diplomatiques avec la diplomatie française, américaine.
Oui, on fait de la diplomatie.
C'est une blague ou pas
du contre-espionnage.
On a extrêmement bien géré la situation. Ouais. Vous pouvez le voir vous-même sur les écrans. Tout est au vert.
Ouais. D'accord. Alors, première crise, il s'est passé quoi ?
Première crise. Alors, un satellite militaire américain qui a failli rentrer avec un satellite d'observation maritime de chez nous, de 2014.
Ouais.
Or, on a appelé, bien sûr, la diplomatie américaine, directement les...
Vous avez fait ça tout seul ?
Bien sûr. Bah, on ne va pas vous déranger le 31 décembre pour une histoire de diplomatie.
Ah, il fallait être responsable.
On a essayé de vous appeler.
Oui, je sais.
Alors,
je sais, d'accord.
Non, je me dois de vous dire qu'on a un peu reprogrammé vos téléphones pour qu'ils sonnent très très fort, donc... Il faudra
attention au SMS.
C'est vrai qui a fait ça, c'est vous.
Attention au SMS le jour de l'an.
Mais vous êtes un petit génie de l'informatique.
Merci.
On a tout essayé.
Alors, on a eu du coup ce problème avec ce satellite militaire américain. En même temps, on a dû gérer un problème avec la Norvège qui avait perdu son radar. Parce qu'on a confirmé 2-3 fois quand même les orbites pour être sûr qu'il y avait vraiment.
Comment vous avez traité le radar ?
Ben, j'ai pris le contrôle personnel avec leur accord, bien sûr, et j'ai réparé leur radar à distance.
Quoi ? C'est vrai, mais c'est un sketch. C'est extraordinaire.
Vous pouvez les appeler, vous les connaissez bien. Vous pouvez les appeler. Non, pour moi, c'est un jeu d'enfant, ce genre de manipulation.
D'accord. Et toi, tu peux parler de ton algorithme d'évitement de radar ?
Oui, tout à fait. Donc, on a mis au point l'algorithme Lorline qu'on s'apprête à breveter.
Quelle soirée extraordinaire. Et donc, sinon, tout est bien qui finit bien. Alors.
J'ai réussi à faire baisser notre ping de 3 points.
Oui.
Alors,
on peut jouer à Counter-Strike maintenant.
Ouais, il y a
un...
Quoi ?
Voilà, à la fin, on a dû faire...
On a pris la décision en fait à la fin. On a été prévenu assez tardivement par Astralink qu'il y avait un risque de collision et ils nous ont certifié que leur algorithme d'évitement allait esquiver. Alors nous on a regardé ce qui est.
On a vérifié.
On a vérifié et on n'a pas. On va dire qu'on a pris la décision de bouger manuellement le satellite puisque on n'était pas
notre satellite
non le leur parce qu'on avait déjà bougé un des nôtres en soirée, on n'avait pas bougé une deuxième fois.
Vous avez piraté Astralink?
Pirater, c'est un grand mot parce qu'en fait on pourrait être dans le partage.
On est monté à droite.
Voilà, c'est ça. Et il faut savoir que tout ça s'est passé parce que tu faisais la bamboche et qu'on pouvait pas te rejoindre.
Ouais. Alors, de toute façon, je suis responsable de vous, donc
Si jamais j'ai laissé une backdoor sur Astralink, si la France est intéressée par une constellation de 3000 satellites, peut être monnaie d'échange avec eux.
Mais est-ce qu'ils peuvent remonter à nous ?
Oh non, il n'y a aucune trace. Je suis meilleur.
D'accord, mais j'espère que tout ira bien. Vous êtes au courant pour l'espion ?
Ouais.
Ah oui, pareil.
Je l'ai laissé à un moment. J'ai pas trouvé un
petit chien,
mais je l'ai laissé à un type de la sécurité.
Il l'a mis au frigo.
Ah non, il est pas là, il s'est échappé.
Hein ?
Comment ça, mais je l'ai laissé à un type de la sécurité.
On aurait peut-être pas dû le laisser seul avec...
Alors, la sécurité n'est pas du tout au courant.
Non, non, mais la sécurité. Alors, oui, alors, c'est ce que vous voulez vous dire. Il y a plusieurs sécurité. Personnes qui n'ont pas fait leur travail ce soir. Notamment, alors, donc, Madame Sushi qui a laissé tout le monde rentrer.
Ah oui.
Et alors, les experts d'astreinte. Oui, alors. Il va falloir faire une réunion, là, parce qu'ils étaient bourraches.
Monsieur Troussard, monsieur, ça va pas du tout.
Oui, monsieur Troussard.
Très bien. Troussard.
Vous voulez dire qu'il y avait peut-être deux espions, alors ? Si je l'ai laissé à un type de la sécurité.
Ils ont entendu parler d'au moins un type ou pas ?
Il y a peut-être deux espions. Alors, on aborde un peu la fin de ce jeu de rôle parce que vous avez passé. Vous passez,
on ne sait pas si on a
Il y a plusieurs choses qui vont se passer quand même dans ce débriefing. Déjà, on peut révéler quelque chose. Est-ce que tu peux le dire ?
En réalité, je m'appelle Ivanov. Ivanov.
Non, non.
C'est ça. Il a libéré l'espion. C'est pour ça qu'il a insisté, il vous a embrouillé pour l'emporter tout seul. En disant je suis hyper costaud, je inquiétez pas, je gère.
Il voulait qu'on remonte voir les ops alors qu'on n'avait plus aucune information.
Et il vous a totalement matrixé alors qu'il y avait. Je comprends pas pourquoi vous l'avez suivi, mais voilà.
C'est vrai que moi,
j'ai pas posé de questions. Et personne n'a vu du feu.
Ah ouais, moi, je
Là, c'est réussi.
Ouais, bravo.
Vous avez tous réussi à faire quelque chose d'exceptionnel. Ton algorithme, ta découverte du badge. T'es multiple de piratage.
C'est vraiment nul.
Le radar des Norvégiens.
Non, mais en plus, tu l'as même optimisé. Et toi, ton système de télécommunication qui a permis de pirater tout ça.
Tu me donnes vraiment le badge comme point.
Vous allez avoir une carrière. Donc, est-ce que ça t'intéresse de travailler à l'Agence spatiale française ?
Ah, mais deux fois. Hein.
D'accord, bon, tu auras ton travail, on va en parler.
Bon, bah.
Super.
Malheureusement, 90. La constellation de Starlink va complètement se collisionner avec SWOTY en particulier et d'autres satellites.
Ah, c'est la responsabilité d'Astralink.
Un effet Kessler. C'est le moment de vous montrer une petite vidéo qui est là, qui va apparaître.
On a provoqué la fin du monde.
Presque en fait, vous allez voir.
On est bloqué en orbite
basse. Régie peut vous montrer un petit peu ce que c'est que l'effet Kessler. Ouais. Donc en gros, c'est syndrome de Kessler.
Syndrome de Kessler.
Exactement. C'est-à-dire qu'il y a ça apparaît là. Donc on a deux satellites, donc imaginez Astralink et le SWOTY. Qui se collisionnent et donc qui créent des petits débris. Donc les débris, vous voyez, ils bougent un petit peu comme ça, et après ils vont se recollisionner. Donc, et au fil du temps, au fil des années, ils vont s'étendre de plus en plus et créer une sorte de bouclier de débris autour de la Terre, sur toute l'orbite, menaçant l'ensemble des satellites.
Il y a un très bon manga, enfin animé, un vieil animé dessus qui parlait des boueurs de l'espace qui doivent enlever des débris.
Oui, oui.
Alors c'est intéressant parce qu'on va en parler justement. Il y a ça. On ne saura jamais si c'est de votre faute ou pas. Officiellement, ces satellites Starlink ont bougé d'eux-mêmes. C'est l'IA exceptionnelle qui l'a fait et ça a entraîné un syndrome de Kessler.
Bon, mon hack était bon.
Super.
Soit c'est l'IA d'Astralink, soit c'est tes calculs.
On est juste coincé sur Terre pour l'éternité.
Non, ça va redescendre au bout d'un
moment. Grâce à trois connards, le 31
Dans quelques milliers d'années, tout ça retombe.
Alors, y a la tempête.
On a pris la responsabilité.
La tempête a eu. C'est un petit peu calmé au fil du temps. Et on va faire deux sauts dans le temps, c'est-à-dire que vous allez être embauché à l'Agence spatiale française en dépit de certains services étranges que vous avez faits, mais bon,
attends, mais
de responsabilité. Quoi ?
Il est embauché alors que c'est un espion ?
Je vous l'ai dit en off, personne ne le saura jamais.
Oh,
de la même façon que personne ne saura que l'algorithme, les calculs n'étaient pas bons.
C'était pas bon.
Non, vraiment, les enquêtes de personnalité, de la sécurité de l'Agence spatiale française...
Donc,
c'est au revoir.
Là, on va faire deux débriefings en accord avec le chat Twitch qui va apparaître derrière. Ça va se passer dans 5 ans et dans 10 ans. Et en gros, on va essayer d'imaginer des solutions à la situation de ce soir. C'est-à-dire comment on aurait pu empêcher sur deux plans, un plan juridique et un plan technique. Et je vais recevoir, s'ils veulent bien venir, Olfa et Pierre, si je me souviens bien, qui sont des spécialistes de la question. Donc, qui sont des spécialistes en tout cas de ça. Donc, ils vont venir et ils vont se poser là. Attends, je vais leur laisser un peu de place.
Ah, bonsoir, le chat.
Salut, le chat.
Voilà, salut, le chat. Vous pouvez leur dire bonjour.
C'est pratique, moi.
Bonjour. Alors, imagine. Prenez chacun une chaise là et venez sur ces angles-là.
Bonjour.
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 Olfa et Pierre qui sont. Voilà.
C'est ça vos journées, du coup, tous les jours, d'appeler la diplomatie, d'esquiver des satellites. On nous a dit que c'était une journée ordinaire.
Ordinaire.
Alors, vous vous retrouvez tous quelques mois après la crise dans un grand auditorium réunissant le personnel le plus qualifié de l'agence spatiale française ainsi que quelques membres et le personnel extérieur habilité confidentielle défense. L'incident de votre nuit est plus ou moins oublié du grand public. Dans le ciel, il y a des débris parce que le syndrome de Kester il a été constaté. Et en plus, on est en hiver et il fait chaud, il fait 20 degrés. Donc, on fait un petit débrief. Et la question que je vous pose ce soir, c'est sur un plan juridique ou pas un plan technique. C'est-à-dire, on parle pas de vaisseau spatial, on parle de règles entre nous et de systèmes, de lois, de sociétés. Parce que Olfa qui est là et Pierre, Olfa partie juridique et Pierre sur une façon opérationnelle, sont des gens dont c'est le métier. Okay. Et la question c'est, un petit brainstorm avec le chat, est-ce que vous avez des idées, dire tiens on devrait créer une loi qui arrangerait certaines choses par rapport aux incidents que vous avez vécu ce soir, ou pour empêcher ça? Arnaud, je vois, est-ce que tu as des idées?
Ouais, alors quelques-unes. Je pense qu'on pourrait demander à ce qu'il y ait une précision de la localisation des satellites. Quand on met quelque chose dans l'espace, on doit être capable de dire à tout moment sa localisation, avec des moyens internes par exemple. Et ça permettrait de connaître mieux la position d'un satellite et donc d'éviter plus facilement les collisions.
Donc exiger une plus grande précision dans la localisation des satellites.
Exactement, ouais. Par exemple. Ouais.
Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que je me tourne...
Alors techniquement, oui, c'est possible et on y pense, on y travaille en développant des nouveaux radars ou en essayant de développer des systèmes qui permettent au satellite lui-même d'envoyer sa position la plus précise possible pour justement avoir un catalogue le plus précis possible, le moins d'incertitudes. Et après, il faut le rendre obligatoire et ça, c'est à travers la réglementation.
Est-ce que c'est possible de le rendre obligatoire ?
Oui, tout à fait, on y travaille aussi.
Un peu plus près voilà.
Oui, tout à fait, c'est tout à fait possible. On y travaille aussi aujourd'hui, c'est vrai, dans la réglementation applicable aujourd'hui, c'est pas obligatoire. Mais on est en train de travailler sur un nouveau cadre qui va la rendre obligatoire.
D'accord.
Est-ce que vous avez une autre suggestion de loi? Vous pouvez, on pourrait dire des choses idiotes. Hein.
Un gouvernement mondial. Pour faciliter les choses.
Ah, donc une sorte d'ONU du satellite.
Le problème en vrai, c'est que je pense que on peut avoir plein de super idées, mais dans la mesure où il y a des pays qui sont hostiles les uns avec les autres et qui du coup ne jouent pas le jeu, et en plus de ça...
En plus, c'est un aspect financier.
Et en plus de ça, maintenant, l'espace est privatisé, donc il y a tout un tas de sociétés privées qui ne rendent compte à personne, puisque on peut très bien leur dire, ça joue sur les juridictions, machin, etc.
Est-ce qu'on pourrait obliger les acteurs qui lancent des satellites à financer aussi la désorbitation de satellites, c'est-à-dire leur dire que, ok, vous investissez tant dans une constellation, mais vous êtes obligé de donner de l'argent dans des outils de désorbitation de satellites pour assurer une certaine sécurité dans l'espace.
Peut-être Alpha, non, qui répond à ça, non?
Obligé à faire payer les opérateurs, je pense que ça va être compliqué. Par contre, par un cadre légal, on peut les obliger à appliquer certaines règles, ouais, respecter certaines exigences qui va faciliter tout ce qui est libération des orbites, les rentrées, tout ça.
Oui, je rajouterais qu'aujourd'hui, qui est responsable? C'est les États de lancement. Ouais. Donc une entreprise qui est dans un pays, elle est soumise aux règles du pays. Alors, collecter de l'argent au niveau mondial, très intéressant, mais qui collecterait ça? Ouais. Est-ce que, par exemple, un pays X serait prêt à se faire collecter par un pays Y?
Ça ne serait pas possible, parce que dans la mesure où maintenant, le programme spatial chinois, il y a de plus en plus de pays qui ont des programmes spatiaux nationaux et qui ne collaborent pas forcément les uns avec les autres. Donc, en vrai... si on va dire aux Chinois et aux Américains bosser ensemble, ils vont dire non, simplement.
Question de Gnarok, est-ce qu'on peut imaginer un code de la route de l'espace qui dit c'est à toi de bouger parce que t'es à droite?
Ah oui.
Oui, c'est tout à fait imaginable et on l'a imaginé aussi. Donc là, c'est en cours. Il est défini de notre côté et normalement, la réglementation technique qui va être applicable d'ici le printemps 2024 va le rendre obligatoire. Après, pas avec les règles strictes, oui, celui qui est à droite bouge, celui qui est à gauche, mais qu'on oblige de se coordonner et qu'un des deux bouge.
Au niveau international, du coup, ou on sera les seuls à s'imposer ça?
Non, en fait, quand je parle du cadre de la réglementation technique, c'est la réglementation technique applicable dans le cadre de la loi sur les opérations spatiales, donc c'est le cadre français, qui est applicable aux opérateurs français.
Pierre, tu veux rajouter
un
truc ?
Oui, sachant qu'effectivement, on veut démontrer en France que c'est possible, en inventant un certain nombre de règles, en démontrant qu'on est capable, grâce au travail que l'on fait aujourd'hui au CNES, de montrer que c'est possible, et après, essayer de le propager à l'international. Et donc, dans les différentes instances, en disant, bah, vous voyez, il y a telle ou telle solution qui sont faisables. Regardez, c'est applicable, c'est appliqué, et donc ce n'est pas de l'utopie. Il suffit de décider de le faire.
VKL Vador, sur le chat, dit... Est-ce qu'on ne peut pas créer un contrôle international des satellites, puisque ça existe pour les avions ?
Alors, du coup, les avions, ils volent au-dessus d'un pays, et donc c'est le pays qui gère son espace aérien, et donc il y a des coordinations entre pays. Le problème de l'espace, c'est qu'un satellite, il va passer d'un pays à l'autre en quelques minutes.
Ouais, ça va très
bien. Et donc, du coup, il faut vraiment il faudrait une entité supranationale, et aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui n'est prêt à déléguer sa souveraineté dans l'espace.
Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut imaginer, comme je parlais des boueurs de l'espace tout à l'heure, une entreprise privée qui se lancerait, même nationale d'ailleurs, qui se lancerait dans cette économie du nettoyage de l'espace par je ne sais pas quel moyen technique, des gros ballons gonflables ou j'en sais rien, parce que finalement des débris, on arrive à les tracer jusqu'à une certaine taille, mais il suffirait d'avoir une espèce de raquette géante comme on fait pour nettoyer les océans.
On parlera des problèmes techniques juste après.
C'est harpon et ce qui est bon, c'est filet et harpon pour l'instant pour les orbites. C'est assez drôle.
Mais ça, on parle. Ouais. Mais est-ce qu'on peut imaginer des éboueurs de l'espace, par exemple, privés déjà ?
C'est pas lucratif.
Travailler avec le privé. Est-ce comment on peut gagner de l'argent si on est privé ? Oui.
En fait, c'est ça. C'est que la question, c'est ça, c'est que si c'est privatif, ça va passer par un but lucratif. Et là, pour l'instant, est-ce qu'il y a moyen de...
C'est pour ça que je voulais faire l'impôt.
Qui paye ?
Mais c'est ça.
Est-ce que le contribuable français est prêt à payer pour ramasser des débris ?
Est-ce qu'il faut considérer que quand un satellite rentre dans un autre, comme dans un constat, c'est celui qui est fautif dans l'accident qui doit payer ? Mais après, encore une fois...
Et là, par exemple, dans l'affaire Astralink, est-ce que qui est fautif, en vrai ?
Oui, celui désigné par l'enquête.
Celui désigné par l'enquête, effectivement. Mais après, voilà, c'est toujours pareil, on en revient toujours au même point, c'est que si demain, il y a deux satellites qui se rentrent dedans, qu'on dit « Ah ben, c'est la faute du satellite chinois », et que les Chinois, ils disent, on leur dit « Ben, faut payer », ils disent « Non », ben, on fait quoi ?»
C'est pour ça qu'à la création, c'est-à-dire, pour moi, c'est ce que je dis, à l'anticipation de quand tu fais ta constellation, tu devrais payer une somme pour les opérations de désorbitage.
Oui, mais ça, c'est
pas... Ça fait partie d'une taxe.
Mais ce serait...
C'est de toute façon pas possible. C'est un truc supranational qui est absolument impossible. Quoi.
Une caution.
Ouais, une caution.
C'est ça.
Ce serait cool.
Pourquoi ne pas forcer chaque agence spatiale nationale à désorbiter un nombre de satellites en fonction d'un pourcentage de satellites envoyés depuis leur sol ? C'est compliqué parce qu'il y a des privés, mais bon, je vous laisse.
Il y a de plus en plus de privés.
Là, on voit déjà le mot forcer chaque agence spatiale. Ouais. Donc nous, aujourd'hui, CNES, en France, on force par la loi. C'est-à-dire qu'en fait, on a une loi qui est coercitive et donc qui oblige les industriels à faire un certain nombre de choses proprement. Et la question, elle est encore de forcer. Comment on peut agir sur les autres pays ? C'est à chaque pays de prendre sa responsabilité. Donc il y a des règles au niveau de l'ONU, des guides de bonnes pratiques qui doivent être traduites dans chaque pays par des réglementations nationales. Nous, on l'a fait à travers la loi, d'autres pays le font à travers des différents guides. Et c'est tout le problème de trouver un équilibre et de ne pas défavoriser ou de ne pas se tirer une balle dans le pied en étant plus vertueux que les autres, entre guillemets. Mais la démarche que nous, on fait, c'est d'être vertueux et de le montrer et de démontrer que c'est possible et qu'on peut continuer à faire du business en étant vertueux.
Ouais. Mais c'est vrai que c'est une difficulté parce que c'est toujours nous qui devons être vertueux et pas les autres. Au bout d'un moment, ça vaut bien de jouer les règles du jeu, mais quand tout le monde soulève le plateau et fait n'importe quoi et vole la banque en permanence, c'est quand toi t'es le seul à respecter les règles du jeu, au bout d'un moment...
Bon, ce soir, on est un peu piraté. J'étais pour le bien.
Je vous remercie, Pierre et Olfa. Je vous recevrai tout à l'heure dans le cadre d'un véritable débrief. Et là, je vais appeler Sylvain, je crois. Enfin, on verra. Les deux autres personnes plutôt techniques. Merci beaucoup d'avoir... Donnez-leur votre micro, d'accord ? Et à tout à l'heure. Merci. Je voulais juste dire qu'entre-temps, dans ces 5 ans, qu'est-ce que vous avez donné ? Toi, tu es informaticien. Tu as intégré la direction technique et numérique. Tu travailles sur le Flights Dynamic System pour la Défense Nationale.
Ouais, c'est la classe.
Toi, tu es devenu ingénieur télécom, donc tu étais déjà ingénieur télécom, et tu es devenu, tu étais junior, donc tu es devenu ingénieur télécom, et tu es dans la surveillance des débris spatiaux de l'Agence Spatiale Française.
Ah oui, c'est rassurant.
Toi, tu as eu ta thèse, tu es devenu docteur, Tu es courtisé aujourd'hui par de nombreuses agences spatiales internationales et tu es consultant pour l'instant sur le système IA. Je reçois Sylvain et Pierre est de retour, très bien. Et enfin, toi, tu as été embauché à l'agence spatiale française. Tu préfères l'agence spatiale française ou les Norvégiens?
Norvégienne, j'ai mis un bon dossier aussi.
En vrai, je peux pas avoir de petits postes.
Quoi tu travailles à la direction technique numérique avec voilà et tu travailles sur les logiciels de vol sur les projets en développement.
C'est super rassurant que je travaille là-bas. Je vous dis.
Voilà. On va alors avant de vous laisser la parole sur la question technique, je vais vous demander de lancer. On va essayer de simuler un petit peu l'effet Kessler. Donc vous allez tous reprendre vos dés et vous allez lancer juste un dé. Si vous faites moins de 20%. Ben ça il y a une autre collision.
Ah oui, on est foutu.
T'as deux fois une dizaine. Mais...
Allez, c'est parti. C'est un satellite russe d'observation de l'environnement. Voilà, c'est parti. Ensuite.
Moi, c'est pas mes calculs hein, qui.
Non, non c'est bon.
Moi, j'ai que deux dizaines. Tu m'échangerais un dé de dizaines.
Excuse-moi, tiens. Voilà. Hop.
Après chaque collision, la probabilité.
Voilà, là, c'est moins de 21%. Parce que la probabilité augmente un petit peu. On a combien là? 96, c'est bon. Vas-y, lance un dé.
Un petit succès critique. Là.
Ah non, 46, il n'y a qu'une seule collision, mais il y en a une supplémentaire avec entre un satellite russe et un satellite indien. Voilà. Nous sommes 5 ans plus tard. Voilà. 5 ans plus tard, je vais vous dire également votre futur. Tu es toujours à la DTN, tu travailles toujours sur le Flight Dynamic System pour la Défense Nationale. Toi, tu as rejoint l'équipe Opération Réseau Multimission. Pour un poste en lien avec le centre d'orbitalisation orbitographie opérationnelle. Je ne sais pas ce que c'est, mais.
Et toujours un espion russe au passage.
Tu es toujours un espion, et vraiment, tu travailles sur les télécoms spatiales, la mécanique spatiale. Toi, tu étais finalement embauché, si tu le veux bien, à l'Agence spatiale française.
Oui, je le veux bien, oui.
Et tu as rejoint la cellule intelligence artificielle de la DTN.
D'accord.
Aujourd'hui, je crois que les algos de collision ne sont pas sur l'intelligence artificielle, justement, donc il y a peut-être quelque chose à faire.
Le Lorline.
Voilà, le Lorline tu vas créer, exactement. Et tu conçois des services divers liés à ça. Et toi, tu es toujours à la direction technique et numérique sur les activités de recherche et technologie et sur la préparation des futurs logiciels de vol. Nous sommes 5 ans plus tard et là, on a parlé de la loi. Maintenant, je vous propose d'imaginer des vaisseaux spatiaux, des machines incroyables, peut-être des logiciels qui permettent de combattre le syndrome de Kessler qu'on a vu et qui permettent d'enlever les débris. Est-ce que vous avez des idées ou... Voilà, est-ce que vous avez des idées? Pas des questions, mais plutôt de dire, moi, je propose qu'on fasse ça.
On peut y aller au laser.
Et le chat aussi, vous pouvez répondre. Au laser, donc, c'est-à-dire un laser qui
ouais, on pourrait tirer sur les débris pour les forcer à rentrer dans l'atmosphère.
Est-ce que c'est possible?
Accélérer.
Oui, c'est possible. Les Australiens sont en train de développer un tel laser. Peut-être que tu le sais déjà. Ouais. Mais bien sûr, le laser, en fonction de la puissance, ça peut aussi être une arme.
Ouais.
Donc on voit de suite les difficultés d'acceptation. De
je crois que la Chine voulait le mettre sur une de leurs stations, un laser de désorbitation, oui. Et tout le monde a dit non.
Et après, avec un laser, on peut, en fonction de la puissance, alors, je ne fais pas dans mon centre de compétences, mais j'ai compris qu'on pouvait soit ablater, c'est-à-dire abîmer un peu le satellite pour enlever de la masse, quoi, un peu comme, comme si on le poncerait à distance, de façon à ce que petit à petit il redescende, en orientant bien le jet de poussière suite au ponçage. Mais bien sûr, si on monte la puissance, là on est sur l'arme, on arrive à des niveaux où on détruit la matière, et là, de façon non réversible, et là on détruit et on sait ce que l'homme peut faire lorsqu'on commence à détruire les choses.
Avez-vous d'autres idées géniales?
Je pensais peut-être à l'utilisation d'un champ magnétique.
Est-ce qu'un champ magnétique peut permettre, un aimant, on en parlait tout à l'heure, Pierre m'en a parlé, est-ce qu'un aimant géant pourrait permettre d'attirer ça? Vas-y, alors, la réponse va vous étonner.
Alors en général, les satellites ne sont pas faits avec une matière aimantable, il n'y a pas de fer, et on essaye justement d'éviter d'avoir des champs magnétiques dans le satellite, puisqu'on utilise le champ magnétique terrestre pour l'orienter, et donc du coup on essaye qu'il soit le plus amagnétique possible. Donc malheureusement...
Mais c'était une bonne idée parce que tout le monde l'a. Enfin, c'est quelque chose qui revient souvent. Voilà.
En vrai, en cas de vrai syndrome Kessler, est-ce que ça pousserait pas en urgence les différents programmes spatiaux à se dire il faut qu'on aille tirer nos fusées depuis la Lune plutôt?
Envoyer une fusée depuis la Lune?
Tu peux plus partir.
Oui, mais attends, parce que je dis après, un syndrome Kessler, c'est pas un bouclier infranchissable, tu vois. C'est juste que ça pose
des problèmes.
Ah non, c'est une bonne question. La question c'est, et si on envoyait nos fusées depuis la Lune? C'est possible ou pas?
Oui, en tout cas, je sais que c'est étudié par des avant-projets. Alors, je me suis mouillé en disant oui, mais c'est envisagé. Ça a des intérêts en termes d'énergie, parce qu'il faut moins d'énergie pour s'extraire de la Lune. Donc, c'est une bonne idée. Par contre, comme tu l'as bien dit, avant que Sam Kessler crée une coque autour de la Terre qui serait très difficile à franchir, même d'après nos pires estimations, c'est pas demain la veille quand même.
Oui, voilà. Ok.
J'ai une petite question de Nekato qui était rigolote. J'imagine un Wall-E géant, donc le robot, qui avance dans l'espace et qui avale qui compresse et qui mélange. Est-ce que c'est possible ?
Ben, on a Clean Space One, la mission de l'ESA, qui l'année prochaine on peut l'appeler Wall-E, va attraper un débris européen de 100 kilos et rentrer dans l'atmosphère avec, dans la zone du Pacifique Sud, de manière contrôlée, de manière à ne pas faire de victimes quand même, et à polluer le moins possible, à part la biodiversité locale de cet océan. Et ça va nettoyer 100 kilos dans l'espace. La mission, elle va coûter plus de 100 millions d'euros. Donc 100 kilos, 100 millions d'euros, 100 kilos, en orbite, ouais. On a 10 000 tonnes. Donc le modèle économique de l'intervention de débris, il n'est quand même pas encore là.
Est-ce qu'on pourrait imaginer un filet géant pour essayer de nettoyer l'orbite
Disons, vraiment de la pêche, vu quoi. Qu'on est à l'ère des drones, est-ce qu'on peut imaginer combiner des espèces de drones spatiaux avec une l'IA qui avance de plus en plus ?
Est-ce que c'est possible ? Drone spatial plus filet.
On y a pensé, on appelle ça des remorqueurs. Donc on imagine une usine avec des remorqueurs spatiaux qui iraient chasser en fait les débris, qui les ramèneraient à l'usine pour éventuellement, vous ne l'avez pas encore dit, mais peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les débris qu'on aurait ?
C'est ce que j'allais dire, parce que les récupérer, c'est une chose. Mais ensuite.
Je pense qu'à mon avis, ça ne sera absolument pas rentable de les récupérer. Ça coûterait tellement plus cher d'aller les chercher et puis de les ramener plutôt que ce qu'on pourrait faire avec. C'est quoi, reconstruire un satellite
Je pense que ça dépend. Je pense que c'est contestable. Je ne sais pas si vous connaissez le prix de lancement au kilo.
Une fois qu'on est là-haut, en fait, il vaut mieux réutiliser la matière qu'on a là-haut, parce que 90% du prix, c'est sorti.
On est environ à 10 000 euros le kilo lancé, 10 millions d'euros la tonne. Donc, oui, l'usine orbitale va coûter très cher. Peut-être, comme la Station Spatiale Internationale, on va probablement parler en milliards d'euros. Mais une fois qu'on a ces remorqueurs, ça fait beaucoup de si. Moi, je suis dans l'innovation de rupture, donc je me permets d'ouvrir beaucoup de portes. Mais on pourrait probablement recycler ces satellites.
Je crois que
et aussi économiserait les lancements.
Pierre va intervenir.
Oui, moi j'ai une petite remarque sur le filet. Il ne faut pas oublier que le débris se déplace à 7 km par seconde. Ça veut dire que si on veut l'attraper avec un filet, il faut qu'on se déplace à peu près à la même vitesse que lui, sinon il va nous transpercer le filet. Et donc ça veut dire que du coup, on ne peut pas mettre un filet et attraper tout. Il faut vraiment chasser et attraper. Quoi.
Donc, si on chasse, on attrape, on emmène des satellites dans des zones dangereuses où il y a forcément des débris qu'on ne peut pas traquer, j'imagine des boulons, des choses. Donc on pourrait augmenter encore plus l'effet Kessler en ayant des satellites venant sur...
Je pense que ça va aussi passer par une adaptation des différentes stations internationales ou spatiales qui vont devoir s'adapter à la menace. Parce qu'actuellement, elles ont des coques solides. Mais je crois que j'avais vu dans ton émission qu'il y avait... je ne sais plus quel... c'était des modules gonflables qui résistaient mieux aux débris comme ça, qui étaient faits pour absorber.
Il y a une petite question.
Life qui est sur la station... Non, Life, c'est le futur module. Comment il s'appelle le module qui est sur la station ? Bon, je l'ai plus.
De Bigelow ? De Bigelow Aerospace.
Ouais. Il y a une petite question mignonne de Ketuki. Peut-on imaginer un toboggan géant qui guiderait les débris qui les ferait tomber dans le Pacifique, par exemple ?
Ça me fait penser à l'ascenseur spatial à l'envers. Alors, le problème d'avoir de longs sauts, que ce soit un câble ou un toboggan, la rigidité là, sur plusieurs centaines de kilomètres, que l'espace est les orbites basses à 800. Et ça, si on arrivait à le faire, ce serait plutôt dans l'autre sens, l'ascenseur.
D'accord. Bon,
avec cette idée, je pense aussi, alors vous me dites si je me trompe, mais on pourrait mettre du gaz. Du gaz, ça va faire de la traînée, et du coup, ça va faire une sorte de toboggan, ça va faire une spirale autour de la Terre et descendre de plus en plus ces débris.
Donc ça, c'est des solutions qu'on a effectivement regardées pour faire ce que l'on appelle le last minute collision avoidance. C'est-à-dire qu'il y a une collision entre deux débris qui n'ont pas de système de propulsion. Donc le seul moyen d'intervenir, c'est d'envoyer quelque chose qui va augmenter la traînée d'un des deux débris pour changer la trajectoire.
C'est quoi
c'est comme dans les avions, tu sais, le truc dans le ciel qu'on voit, le traînée blanc.
Ouais. Ça va emporter
des particules d'atmosfère qui vont frapper en fait le frein, voilà, freiner
ça,
le
ça va le freiner
en fait si tu perds de l'énergie
il va tomber dans
tu descends,
quoi. Okay. Voilà. En fait le problème c'est qu'il reste à cette vitesse constante quoi.
Et donc là on le changerait de quelques
quelques millimètres secondes, mais ça suffit sur une ou deux orbites pour pouvoir le décaler de quelques mètres pour éviter une collision. Okay.
Mais là, tu disais, du coup, c'est pour la just-in-time, donc pour éviter au dernier moment. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, si on a une orbite qui est vraiment saturée par un certain nombre de Kessler, de placer du gaz sur cette orbite pour faire descendre toute cette, faire dériver toute cette coque vers le bas pour.
On pourrait mettre des réservoirs de gaz en orbite, puis après, pour l'injecter au bon moment, au bon endroit. C'est ça la difficulté. Il faut un vecteur, un drone, comme tu disais, pour l'amener. Enfin, sur le papier, ça a l'air de marcher.
Et comment on fait? Parce que quand ça dérive vers le bas, il y a tout ce qui est en dessous, enfin dans les orbites plus basses.
Oui. Comme vous avez rencontré dans le jeu, fallait pas créer une nouvelle risque de collision, un nouveau risque de collision en évitant une autre collision. Ben on a déjà le problème dans les sorties de l'espace, dans le centre de contrôle, et on l'aura avec cette technologie.
D'accord.
Juste en information, genre sur une année, vous faites combien de manœuvres pour éviter des collisions comme ça? C'est assez gros.
Alors ça a beaucoup augmenté ces dernières années parce qu'il y a plus en plus de satellites. Je ne sais pas si la courbe montrait à l'écran. On en est à au moins une manœuvre par satellite par an.
Les constellations de satellites, ça se multiplie. En plus, maintenant, il y a Starlink, mais il y a tout le monde a son délire personnel pour lancer sa constellation.
Oui, y compris le propriétaire de Twitch, Amazon, qui va faire sa constellation de Kuiper.
On embrasse du coup.
Voilà.
une petite voile solaire sur les satellites quand ils ont plus de
carburant. Une tape sur l'épaule.
Alors, voile solaire, là, on appellerait plutôt voile de désorbitation, voile pour augmenter la traînée, justement, puisque du coup, comme on parlait tout à l'heure, hein, donc même un satellite hors atmosphère, il tourne dans du vide, mais ce n'est pas vraiment du vide. Il reste quelques molécules, quelques atomes
issus. C'est pour ça que la
météo
de l'espace, la atmosphère, elle est bougée. Et, voilà.
Et donc, le fait de sortir des voiles, ça fait qu'on a plus de surface, donc plus de collisions avec ces particules résiduelles, et donc on freine. Et donc, on peut redescendre et on peut gagner un temps. Et donc, au CNES, on a déjà fait ça sur un microscope où on a changé de 70 ans à 15 ans la durée de vie, rien qu'en gonflant deux voiles avec des systèmes de gonflage et de voiles.
Alors, merci beaucoup. Enfin, vous pouvez rester là deux minutes. Juste pour vous dire, avant que vous partiez, parce qu'on va passer dans une deuxième séquence, que... Ce que les dilemmes que vous avez vécu ce soir, est-ce qu'on bouge ou pas le satellite, c'est l'histoire vraie. D'ailleurs, c'est ce que m'a dit Sylvain Delattre, qui est lui le responsable de Quasar, qui m'a dit, moi, le satellite américain à 150 millions d'euros, je suis tout seul le soir, il n'y a personne pour répondre, il faut prendre la décision.
C'est incroyable.
Voilà. Et vous l'avez vécu. Voilà. Non, mais voilà, donc, c'est assez intéressant. Bon, ça fait partie du métier.
Qu'est-ce qu'il a appelé la diplomatie, c'est ça la grande question.
C'est ça. Oui, parce que, en tout cas, il y a eu des... Enfin, par exemple, Megatropic, c'était un franco-indien. Il faut vraiment appeler le Pakistan ou l'Inde en leur disant, voilà, on veut le déplacer, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, c'est quasiment une histoire vraie, sauf le piratage qui est un petit peu exotique.
Et puis là, vous aviez quelqu'un au bout du fil. Parfois, il ne répond pas, soit parce qu'il n'est juste pas disponible, soit parce que les relations géopolitiques avec ce pays-là ne sont pas au beau fixe.
Voilà.
Et pourtant, il faut avancer. Alors parfois, ça remonte.
Soit parce qu'il n'y a pas de pile dans le pager.
Voilà. Normalement, il y a une dernière partie, mais on est un petit peu de science-fiction. Et en fait, ça s'est très bien passé. Vous avez fait des choses tout à fait intéressantes. Et vous pouvez vous féliciter de cette première nuit passée ensemble à Syndrome. Ça aboutit à un syndrome de Kessler, mais
on a des trucs futurs, mais à part ça.
Mais sinon, tout va bien.
Ça m'a arrangé un peu parce que du coup, on a pu en parler. Vous avez vu aussi un aspect très technique en fait d'un métier technique, mais qui va pas, enfin, il va peut-être plus loin que ça effectivement, mais en vrai c'est un peu c'est l'accumulation d'informations, la vérification par des algorithmes et une prise de décision. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, il y a pas de code de la route, c'est-à-dire qu'on la décision, ça se fait au feeling et ça se fait aussi avec des jeux de.
C'est impressionnant du coup.
Ouais, et un peu, vous savez, à un moment vous avez appelé la NASA pour dire vous me devez un truc, c'est aussi des jeux un peu de relationnel, tu vois. On va faire un débriefing un peu, avec l'équipe. Moi, Bagheera et Fred, je vous invite à finir la soirée sans nous.
On se casse.
À moins que vous vouliez rester.
Non, c'est juste le côté finir la soirée sans nous. C'était un peu bon, on va être tout seul comme ça.
Non,
on sait qu'il y a du monde.
Non, vous allez faire un taf et je vous rejoins tout à l'heure. Okay. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que ça vous a plu?
C'est très cool.
C'est vrai, ça vous a passé un bon moment. Ça fait plaisir.
Moi, j'adore l'espace.
Pareil.
Voilà. Mais j'espère vous retrouver peut-être
merci beaucoup,
dans une
en tout
autre.
Cas.
Merci à vous. C'était vraiment un plaisir. C'était trop bien.
Voilà. C'était un peu stressant. Est-ce qu'il y a eu des passages
Oui, c'était l'espion, lui, il était tranquille.
On ne les a pas sentis trop stressés, quand même, comme ça.
Non, mais en vrai c'est vrai que enfin, bon, moi, en tout cas, j'avais un personnage où j'étais un peu genre, je ne vais servir à rien, mais c'est drôle. Mais du coup, je me disais, dans le relationnel, c'était marrant.
C'est quoi ta mission secrète?
C'était.
Toutes les missions de tout le monde, c'était faire bonne impression.
Ah bah voilà.
Il n'y a que toi qui avais la mission.
C'est pour ça que moi je voulais que tout soit géré avant qu'ils reviennent. Quoi.
C'est pour ça que j'ai paniqué avec la caméra dès le début, enfin le tiroir. Ouais. C'est que je me suis dit, bon.
Ah, je me suis dit, ils vont attaquer à la hache, la porte.
Ah non, je m'en suis voulu.
Mais merci.
Ouais, merci beaucoup, c'était un plaisir.
Merci d'avoir été avec moi. On va. Alors, aux viewers, ne quittez pas, on va faire une partie très technique de débrief sur la réalité des débris spatiaux.
Allez.
Merci beaucoup Fred, merci beaucoup Justine. On se voit juste après.
Bah oui.
Ça marche.
Par la teuf.
Merci
à tout de suite.
Merci, à tout de suite.
Et c'est vous maintenant ou...
Non.
C'est Olfa et...
Valentin.
Alors, je vais recevoir Valentin Clément qui était nos deux...
Les deux experts.
Vous allez pouvoir leur parler en direct.
On a des mots à dire à ces experts.
Attendez, je les retrouve. Merci beaucoup.
Je peux avoir de l'eau.
Et on peut apporter un petit peu d'eau pour notre astronaute.
C'est gentil.
Ah, les fameux experts.
Ah.
Alors, on reste avec vous une demi-heure de plus avec... Clément. Je ne vais pas dire que c'est lui qui te l'a envie, toi, là. Ah non, excuse-moi. Okay.
Nous, chef, on l'a.
Clément, je ne dirais pas que c'est lui qui a fait les Legos, et Valentin, je ne dirais pas que c'est lui qui s'est énervé tout à l'heure, mais c'est pour moi.
C'était très drôle.
Je suis démasqué.
Parce que moi, je n'ai pas de micro.
Les mêmes micros,
excusez-moi.
D'accord.
Donc, voici une demi-heure de plus. Donc, Valentin et Clément, Valentin, présente-toi. Qui es-tu et que fais-tu à Oknes?
Alors, je m'appelle Valentin Barral. Ouais. Je travaille au service de science de l'espace Oknes. Et ma spécialité, c'est le catalogage d'objets spatiaux. Pardon. Donc, c'est le suivi, en gros, de tous les objets qu'on est capable de détecter avec nos moyens. Et je travaille aussi dans l'équipe Kaisar, qui est l'équipe réelle que les joueurs représentaient aujourd'hui.
Donc, le métier qu'on a vu aujourd'hui, c'est toi qui le fais? Enfin, vous êtes une équipe.
Oui, je ne le fais pas tout seul, heureusement.
Très bien.
Vous êtes combien, juste pour savoir à peu près par rapport à nous?
On doit être une petite douzaine, quelque chose comme ça, ouais.
Ok.
Ouais, pour l'instant.
Voilà. Mais vous n'êtes pas 12 tout le temps. C'est-à-dire que vous pouvez être 4 comme ce soir, quoi.
Non, oui, dans un contexte d'astreinte, il y a deux astreintes en parallèle. Il y a deux astreintes techniques et une astreinte décisionnelle. On va dire trois personnes.
Pression,
on aurait été trois personnes pour gérer la situation que les joueurs ont gérée ce soir.
Et toi, Clément, que fais-tu dans la vie?
Je suis ingénieur aux opérations. Donc je fais partie des équipes qui pilotent les satellites, et plus précisément sur la partie informatique.
Donc il prend la décision de bouger, et toi tu appuies sur le bouton, il aime pas quand je dis ça. Tu fais la manœuvre de 4 heures pour bouger le satellite.
En gros c'est ça, mais alors c'est les OP qui décident de bouger ou pas.
Ah.
Sur conseil de...
c'est en commun quoi, c'est ça.
C'est un travail.
Voilà. Là j'ai un peu changé,
je
vous ai fait prendre la décision, mais c'était parce que c'était dur la décision à prendre. Donc par rapport à ce que vous avez vu ce soir... Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux?
J'ai pris des...
Vas-y, il a pris des notes. Alors, qu'est-ce qui est vrai?
Ouh là là, débriefing.
On opère des satellites, parce que j'ai vu que ça avait étonné certaines personnes. Alors, je ne sais pas si c'était dans le rôle ou quoi, mais on opère des satellites, on en opère entre 10 et 20, suivant les
alors,
années.
Pour le dire en langage de Moldu, le CNES s'occupe de bouger des satellites et de les suivre et de s'en occuper.
Et de voilà, s'assurer leur bon fonctionnement, de s'il y a des problèmes, les y contrevenir et
voilà.
De faire en sorte que...
Donc ça, c'est vrai?
Ça, c'est très vrai.
Et est-ce qu'il y a d'autres choses vraies ou tout le reste est faux?
Qu'on est appelé d'astreinte le 31 décembre, ça arrive. On est toujours très content dans ces cas-là.
Je dis ça, mais toi aussi, Valentin, tu peux dire.
Bah alors,
est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont dit ça c'est trop vrai ou alors ça c'est trop faux?
Alors, le trop faux, elle est hacking, c'est non. Alors, peut-être sur un téléfilm, sur M6, en deuxième partie de soirée, éventuellement. Mais
J'avais lu qu'il n'y a pas longtemps, je crois que Thalès a réussi à prendre le contrôle d'un satellite de l'ESA.
Non, alors, y a une vraie
commence à arriver.
Il y a une vraie thématique de cybersécurité. Après. Ça se passera pas comme ça.
Ouais,
voilà. Et puis vous prenez pas le contrôle d'une constellation de 3000 satellites en tapotant sur un clavier, même si vous avez un hoodie et que vous avez l'air très, très sérieux.
Il y a une impossibilité technique, mais est-ce que parfois vous avez la tentation de hacker? Et vous dites que ce serait tellement simple.
Alors, non. Hacker, non. Prendre des raccourcis techniques, ça peut arriver, mais on est toujours responsable de ce qu'on fait. On est toujours...
consciencieux dans ce qu'on fait parce que on peut avoir à rendre des comptes à ce
donc le hacking notamment. C'est faux. Est-ce qu'il y a d'autres vrais faux
Que les tempêtes solaires ça affecte les satellites, ça c'est vrai. Alors sur les orbites, ça on en a parlé, mais j'ai en me renseignant un peu auprès de mes collègues sur parce que c'était moi le téléphone de la NOAA, mais c'est pas mon domaine d'expertise. Et on m'a expliqué que jusqu'à récemment, il y avait un satellite dont la charge utile, c'est-à-dire ce qui fait la mesure, pouvait être affectée par des vents solaires importants. Et donc, c'est arrivé que des ingénieurs du CNES soient appelés le soir ou la nuit parce que le soleil soufflait trop fort.
D'accord.
Il fallait s'y déplacer pour
faire. Est-ce que la chronologie de ce que vous avez vu ce soir, constat, enfin, la NASA appelle, les radars, les opérations, est-ce que c'est des choses qui étaient finalement plutôt vraies ou plutôt fausses ? Ou il y a des choses vraiment qui normalement ne se passent pas comme ça ?
C'était plutôt vrai, mais dans un format très condensé,
oui.
Avec tous les aléas possibles et imaginables.
Ah bah, bien sûr.
Avoir, évidemment, parce que bon, faut que ce soit un peu romancé, ouais. Et voilà, pour les bienfaits du jeu. Mais oui, la chronologie était plutôt bonne, en effet. Dans un temps aussi court, on n'aurait peut-être pas eu le temps de faire tout ça, et on aurait fait avec les données qu'on a. Et c'est parfois c'est là que les êtres humains doivent intervenir et faire les choix. C'est que il y a des moments où on peut pas demander plus de données, on n'a pas le temps de refaire les calculs, et on a une information qui est incomplète. Et faut prendre des décisions avec ça.
Voilà. Vas-y, tu veux, tu...
Ouais, moi j'ai plein de questions.
Ouais, mais on n'a pas trop de temps malheureusement, mais on pourra peut-être, je sais pas. Mais est-ce qu'on parle de Starlink ou c'est un sujet un peu...
Bon, on peut en parler, oui.
Est-ce qu'ils sont aussi chiants dans la vie que dans le jeu de rôle ?
Alors non, ils sont très sympathiques.
D'accord.
Ils sont très réactifs,
ouais.
Ils répondent très vite. Après, on a touché une problématique, d'ailleurs ça a un peu agacé les joueurs ce soir, donc ouais. J'ai trouvé ça intéressant. Une problématique assez réelle au final, qui est que leur technologie a évolué plus vite que la réglementation. Et du coup, ils ont en effet des technologies d'évitement autonome, mais qui sont du coup pas du tout contrôlées. Et on est obligé, dans une certaine mesure, de leur faire confiance, parce que si leur satellite décide de bouger de manière autonome et que nous aussi on a bougé, on peut en quelque sorte annuler les bienfaits de leur manœuvre par la nôtre et au final se retrouver dans une situation qui serait limite pire que celle qu'on avait initialement. Donc c'est des situations où souvent on est un peu contraint pour l'instant de leur faire confiance. Voilà. Et,
d'accord.
Et ça peut être compliqué.
Alors, j'ai malheureusement un emploi du temps, enfin une chronologie à respecter. Un dernier mot si vous avez, sinon on passe la suite à Sylvain et à Olfa et à Pierre. Est-ce que vous avez rien à dire, rien à ajouter ?
Que c'est un travail d'équipe, tout ça.
Ah, d'accord, travail d'équipe, passionnant.
Ouais, gros travail
et,
d'équipe.
Si vous avez vu ce soir, si ça vous a plu, envoyez votre CV. Voilà, il faut ingénieur télécom, ingénieur informatique, mathématicien.
Promis, on est plus sympa que Monsieur Troussard.
Merci beaucoup en tout cas, je vous remercie.
Merci
et je vais accueillir. Merci.
Merci.
Je vais accueillir Olfa, qu'on a vu tout à l'heure, et Pierre, le duo spécialiste des débris spatiaux. Je suis désolé, vous n'avez pas posé beaucoup de questions, mais vraiment, ils m'ont donné 10 minutes. Vas-y, non, oui, là, excusez-moi, là et Olfa. Et comme on vous a déjà. Ah non, mais on va vous présenter très rapidement parce que j'ai dit juste que vous étiez des spécialistes. Mais vas-y, Pierre, déjà, tu fais quoi au CNES ?
Je suis chef de projet et d'un projet qui s'occupe de trouver des technologies pour répondre à la loi sur les opérations spatiales et donc pour permettre aux gens qui sont soumis à cette loi de. D'être capable de répondre à la loi sans perte de compétitivité. Et donc, du coup, des technologies pour faire un espace durable.
Et toi, Olfa, qu'est-ce que tu fais à OCNES ?
Bon, moi, je suis la chef de service de la LOS et sauvegarde, donc la LOS, loi sur les opérations spatiales. La mission du service, c'est de proposer la réglementation technique, donc les règles au ministère en charge de l'espace, la faire évoluer. Donc aujourd'hui, la réglementation technique applicable aujourd'hui, elle a été proposée depuis plus de 10 ans, donc elle n'est plus adaptée au contexte actuel du New Space, des méga-constellations, du service en orbite. Donc aujourd'hui, on l'a fait évoluer pour que les règles soient adaptées au nouveau contexte. Et après, on s'assure à appliquer cette réglementation technique. Donc, on contrôle que les opérations spatiales sont conformes aux règles qui ont été exigées dans le cadre de la loi sur les opérations spatiales.
Cette émission est tournée autour des débris spatiaux. C'est quoi un débris spatial ?
Oui, je vais reprendre. Donc, c'est quoi un débris spatial ? Donc, un débris spatial, c'est un objet qui n'est pas fonctionnel, donc il est... il n'a pas d'utilité, qui orbite autour de la Terre et qui n'a pas de fonction précise. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a les principales sources de débris. Donc on a des débris qui sont issus des épaves. Donc le premier débris qui a été introduit dans l'espace en 57, c'était Sputnik 1. On trouve des débris qui sont issus de collisions, des débris par fragmentation suite à des incidents, par exemple un accident par rapport à un satellite, séparation d'un panneau solaire ou autre, ou par négligence lors des sorties des astronautes. Donc il y a eu des pertes de trousses à outils. Récemment, il y a eu fin 2023 où il y en a eu pas mal. Voilà.
Combien y a-t-il de débris dans le ciel ? Vas-y.
Alors, je voudrais juste, à l'issue de cette petite soirée, peut-être avoir une réflexion sur la définition d'un débris. Finalement, ce qu'on a vu, ce qui nous embêtait, qu'un débris soit fonctionnel ou pas, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on est capable de bouger ce débris. Donc finalement, j'irai dans la démarche où finalement, un débris est un objet que l'homme a mis et qu'on ne peut plus déplacer. Parce que finalement, si on sait le déplacer, on fait des anticollisions et ce n'est pas...
Une épave dérivante.
Ce n'est pas quelque chose qui est gênant.
Combien il y a de débris dans l'espace ?
Alors, des débris, il y en a à peu près 34 000 objets.
34 000
gros débris, alors supérieurs à 10 cm.
Bon, ok, mais il y en a aussi plus à moins. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour limiter les débris spatiaux ?
Donc, on intervient à plusieurs échelles. Donc, par prévention, donc, nous, ce qu'on met en place comme règle, c'est des règles qui vont permettre de limiter la prolifération des débris lors d'une opération spatiale. Donc, on vérifie que l'opération spatiale va être menée dans le respect de l'espace et qu'il n'y a pas de génération de débris supplémentaires. Donc, ce qu'on oblige, par exemple, dans le cadre de la loi sur les opérations spatiales, c'est qu'en fin de mission, quand les satellites n'ont plus de fonction utile, qu'ils soient désorbités. Donc, et mise en situation stable, sécurisée. Donc, on vide les ergols, les batteries, pour que si, voilà, on limite les risques de collision déjà et que ça ait le risque d'explosion en orbite également.
Merci beaucoup. Petite question. Si toutefois il y a un satellite qui rentre dans l'atmosphère, est-ce que ça pollue ?
Donc, il y a eu effectivement quelques études qui ont montré que dans les particules atmosphériques, il y avait des traces de matériaux issus de satellites ou de lanceurs. Donc aujourd'hui, on ne peut pas nier que lorsque les véhicules rentrent dans l'atmosphère à 7-8 km par seconde, ils vont brûler, ils se vaporisent. Il y en a une partie qui retombe au sol très peu et toute une partie qui se vaporise. Cette matière, elle n'annihile pas, elle se transforme et elle s'agrège et donc elle se met dans l'atmosphère. Et donc, elle est là.
Et alors, justement, je réagis, il y a quelqu'un sur le chat qui s'appelle Bim Badaboum, bam, je t'ai bien cité, qui a dit, c'est dans la continuité de ce que tu es en train de dire, est-ce qu'au bout d'un moment, la présence de satellites et de débris dans l'atmosphère va modifier la météo, le dérèglement climatique ? Est-ce que ça a un impact ?
Donc, c'est une très bonne question. Et donc, aujourd'hui, on y travaille. On a lancé...
On n'a pas la réponse.
Non, on n'a pas la réponse. Aujourd'hui, on a constaté que ça existait, qu'il y avait des particules avec des matériaux. Et donc là, on a lancé toute une série de thèses au niveau du CNES pour travailler sur, effectivement, quelle est la chimie, comment ces molécules vont s'agencer les unes. Est-ce que ça peut être un problème ou une solution ? On ne sait pas aujourd'hui. On sait qu'il y a un certain nombre de trucs qui se font. On y travaille pour avoir des vraies réponses et des vrais chiffres.
Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter d'important ? Sinon, on passera à la suite sur la question des débris spatiaux. On peut dire que c'est un sujet qui est pris au sérieux au CNES, puisque finalement, ils ont mis en place au moins cette émission.
Est-ce que vous êtes inquiet dans un futur où on utiliserait plus de propulsion nucléaire et sur le fait que ces débris-là pourraient être beaucoup plus dangereux s'ils revenaient dans l'atmosphère ? Notamment avec ce qui s'était passé avec les satellites Cosmos de l'Union soviétique qui avaient fait des sacrées pollutions à l'époque.
Oui, alors le problème du système nucléaire, c'est qu'effectivement, les particules qui vont retomber, elles sont radioactives. Alors je dirais, l'avantage, c'est qu'on est capable de les retrouver. Elles sont radioactives, donc on peut les retraiter après. Mais bon, ça ne résout pas le problème, effectivement. Alors, par contre, l'énergie nucléaire, dans comme source, peut être une solution pour pouvoir faire ces changements de plan et aller chercher tous ces débris. Et donc apporter finalement une solution où on aurait l'énergie pour aller nettoyer tout. Parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Comme on disait tout à l'heure, pour aller chercher un débris, il faut le rapprocher, il faut se rapprocher de lui, l'attraper. Et puis donc après, il faut aller en chercher un autre. Donc il faut changer de plan, changer d'orbite. Et donc ça demande de l'énergie colossale, de remettre de l'ergol, donc de l'énergie dans les réservoirs des satellites qui ferait ça. Et la solution nucléaire peut apporter ce genre de solution. Avec bien sûr tous les désavantages que peut avoir cette technologie-là vis-à-vis du risque s'il y a un problème.
Peut-être, juste ouais. Pour préciser par rapport au nucléaire, s'il y aura une activité avec des réacteurs nucléaires et tout, donc la réglementation technique va s'adapter et il y aura un cadre pour ne pas avoir des risques de débris. Là, je parle à l'échelle nationale. Mais comme tout à l'heure, on l'a dit un petit peu, donc il y a le travail qu'on fait à l'échelle nationale, on le pousse à l'échelle internationale, on essaye de promouvoir ce qu'on fait. Et dans le cadre de collaboration comme l'IADC, l'Interagency Débris Committee, donc toutes les agences spatiales, il y en a 13 aujourd'hui qui participent, et on se met d'accord sur des lignes directrices, des guidelines, pour se mettre d'accord sur les principes de base.
D'accord. Merci. Alors, merci beaucoup, Alpha. Merci de ta présence. Pierre, tu peux rester. En attendant que Sylvain arrive pour vous annoncer quelque chose de très, très étonnant, question de Ketuki pour Arnaud. Arnaud, c'est quoi astronaute de réserve? Est-ce que tu remplaces l'astronaute quand il est malade? Non, tu peux te mettre là.
Pendant les derniers mois et qui est du coup prêt à réaliser la mission. Être astronaute de réserve, ça veut dire que vous avez été sélectionné par l'Agence spatiale européenne comme étant quelqu'un qui est apte à préparer et à réaliser une mission dans l'espace, mais qu'une mission, justement, n'a pas encore été identifiée pour vous. Et donc, par conséquent, en attendant qu'une mission soit identifiée, eh ben, vous maintenez votre activité. Donc, moi, c'est mon activité pour l'armée de l'air et de l'espace, de pilote. Et en même temps, en parallèle, je commence à me former avec le CNES, avec l'Agence spatiale européenne, pour me tenir prêt le jour où une opportunité existera pour moi.
Ça va arriver. Oui, on en est sûr, on nous croit. Je reçois Sylvain qui vient rejoindre Pierre pour nous parler d'un projet étonnant. Vous allez voir, ça, les Twitch shows, ça va vous intéresser. Qu'est-ce que c'est ?
C'est un jeu de rôle, un jeu pour smartphone dans un premier temps qui s'appelle Orbital Dance.
Il est gratuit, j'espère.
Évidemment.
Ah yes.
Évidemment, il est payé avec vos impôts, donc il est gratuit. Et il est disponible pour téléchargement dès maintenant sur l'Apple Store et dans quelques heures, voire quelques jours, sur le Google Store.
Donc on tape Orbital Dance sur l'App Store ou sur le Google Play et on a ce jeu gratuit.
On a ce jeu développé par World Game avec le CNES qui vise à sensibiliser ceux qui n'étaient pas là ce soir aux débris spatiaux et aux solutions que nous développons pour limiter la prolifération des débris.
D'accord, donc j'imagine que le public voit en ce moment des images du jeu ou voit le jeu. Il y a un lien également dans le robot du chat, donc vous remontez un petit peu le chat, vous trouverez directement. Donc pourquoi le CNES ferait ça en vrai? Pourquoi faire un jeu vidéo?
Alors, c'est une façon de parler au public, au grand public, peut-être aux plus jeunes ou aux gamers. Il n'y a pas d'âge pour être gamer. Je sais de quoi je parle. Et d'une façon originale, aux débris spatiaux. Donc, dans le jeu, on va incarner un satellite qui va essayer d'éviter les débris. Et ça va être de plus en plus difficile parce que l'effet Kessler que vous avez commencé à vivre ce soir. Mais on peut repousser l'échéance, améliorer son score avec certaines technologies qui sont développées par Pierre dans la vraie vie.
Il y a un arbre de compétences du satellite. Et donc, tu peux dire quelques technologies?
Oui, donc c'est les technologies dont on a parlé tout à l'heure.
Donc pas l'aimant déjà, mais...
Non, pas l'aimant, mais donc il y a le filet, il y a le système de surveillance qui permet donc de connaître un petit peu mieux où sont les débris. Il y a un système qu'on appelle un détumbler, qui est un système qui empêche le satellite de tourner sur lui-même et donc qui se stabilise, donc ça permet de surfer à travers les débris. Et il y a donc tous les systèmes de passivation ou de fin de mission qui vont donner des points supplémentaires puisque donc du coup, alors, en fin de mission, donc, vous débarrassez le plancher.
Si je débloque une technologie, je peux la googler et voir ce que c'est en fait, en vrai.
Alors, même sans la googler, t'as déjà un petit teaser. Et puis après, effectivement, tu peux aller trouver qui fait ça.
N'hésitez pas. Et si vous voulez faire un stream de ce jeu, vous en parlez au CNES, ils vous font un petit... Oui, vas-y, rajoute.
Oui, il y a tellement de choses à dire, parce que c'est notre bébé ce jeu, mais dire aussi que la Cité de l'Espace à Toulouse, environ 500 000 visiteurs par an, a adapté le jeu, on peut y jouer, donc visiter la Cité de l'Espace, qui vient de revoir complètement la zone dédiée aux débris spatiaux, et je pense qu'on pourra dire qu'on a un peu contribué à sa rénovation. La dernière chose à dire dans le jeu, c'est qu'on a essayé de reproduire ce que vous avez vécu tout à l'heure. D'accord. C'est-à-dire, à un moment donné, on a un dilemme. Le satellite en fin de vie, on utilise son ergol pour désorbiter ou pour faire une manœuvre d'évitement. Mais si, suite à la manœuvre d'évitement, il n'y a plus assez d'ergol, c'est game over. Et donc, dans le jeu, si on désorbite au bon moment, on a un meilleur score.
D'accord. Merci. On va. Tout le monde reste ici. L'équipe ne change pas. On va parler. Un terme que personne ne va comprendre, d'accord ? Je vais le dire et on va expliquer ce que c'est. Innovation de rupture, qu'est-ce que c'est ?
Alors, ça dépend à qui tu parles. Quand tu parles à moi...
Oui, j'imagine.
Voilà, la façon que dans mon équipe, on envisage l'innovation de rupture, c'est pour changer le paradigme d'utilisation de l'espace.
Alors, paradigme, le mot est compliqué.
Le mot est compliqué, j'allais essayer de préciser. Donc, aujourd'hui, vous l'avez bien compris, tout le monde connaît le paradigme actuel, c'est-à-dire on lance des satellites avec des lanceurs, et les satellites, au bout d'un moment, malheureusement, deviennent des débris. Et ça, c'était tout à fait compréhensible dans les années 50, 60, 70, même jusqu'à récemment, tant qu'on n'en envoie pas trop. Avec la recrudescence des constellations, des méga-constellations, on a bien vécu le problème d'effet Kessler qui se déclenche. Donc on essaye, dans l'innovation de rupture, de penser autrement.
Alors, j'avertis le chat que c'est maintenant ou jamais, comme dans les mariages, parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. Si vous avez j'ai le chat sous les yeux, si vous avez des questions... Il y a aussi l'équipe des community managers de CNES qui me font des sélections, mais si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais, sur la soirée, sur le jeu, sur le CNES en général. On parlera emploi aussi juste après, donc pas sur les emplois en tout cas. Et pendant que les questions arrivent, j'ai une question à vous deux. Donnez-nous des exemples d'innovation de rupture au CNES. Est-ce que vous en avez ?
C'est quoi le futur ?
Alors, j'aimerais le savoir, mais on essaye de préparer des futurs possibles avec la prospective, avec l'innovation de rupture. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, on a défloré parce que vous y étiez quasiment arrivé. On pourrait recycler en orbite avec des robots, pas avec des humains. Donc, imaginez une usine de recyclage de la taille de l'ISS, voilà, qui serait alimentée, comme on disait tout à l'heure, par des remorqueurs qui iraient chasser les débris, qui les ramèneraient. Ça éviterait de relancer toute cette masse. Et ça aurait beaucoup de vertus écologiques.
Est-ce qu'on pourrait imaginer aussi des stations spatiales, un peu comme des stations essence, où on aurait, au lieu d'avoir un satellite en fin de vie qui deviendrait un débris, il pourrait aller se recharger en ergol et continuer sa vie comme ça ?
Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre de missions là, qui sont aujourd'hui étudiées pour... tout à fait faire ça, pour être une station-service. Donc aujourd'hui, c'est plutôt la station-service qui irait remettre du fuel dans le satellite. Mais on peut tout à fait imaginer, à un moment ou à un autre, que ce soit lui qui vienne à la station.
Je crois que tu avais une question, non ?
Oui, enfin une question, ou plutôt aussi, j'ai envie de parler sous le contrôle des experts, parce que je les trouve un peu modestes quand même. Mais il faut savoir que là, tous les efforts dont ils parlent, la recherche qu'on fait, c'est une recherche qui est au profit de l'intérêt collectif finalement. Et il faut savoir que, vous me dites si je me trompe, mais la France est le premier pays à avoir fait une loi en 2008 pour la gestion des débris. Alors que si on regarde les chiffres en orbite basse, 97,5% des débris, c'est la Russie, la Chine et les États-Unis. Et donc du coup, je pense qu'on peut vraiment être fier d'avoir une agence spatiale nationale qui a cette vision de l'intérêt collectif, qui fait de la recherche pour des technologies pour pouvoir nettoyer l'espace. Donc voilà, c'est quelque chose à dire. Et je pense que c'est vraiment important qu'on fasse tous des efforts pour avoir un espace fort en France, parce que c'est ça qui nous permettra de véhiculer cette vision de l'espace et d'essayer de convaincre d'autres nations qui, pour l'instant, ne font pas ces efforts.
Ok, j'ai trois questions du chat. À moins que ça nécessite une réponse, non, c'est bon ?
Merci. Merci, sincère.
Okay. Merci. Effectivement, alors, juste un mot, ce que tu dis là, c'est qu'effectivement, montrer l'exemple. Donc là, nous, aujourd'hui, on essaye de trouver les technologies, d'avoir des innovations de rupture, de développer la technologie jusqu'à ce qu'elle soit sur étagère pour dire, regardez, elle existe. Et si vous ne l'utilisez pas, c'est parce que vous ne voulez pas l'utiliser. C'est parce qu'elle n'existe pas. Et donc, du coup, après, on peut vraiment dire, vous êtes des vilains parce que c'est vous qui ne l'utilisez pas. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde nous dit, c'est difficile, c'est difficile. Oui.
Alors, question de Spartex. Est-ce qu'il y a une chance qu'un satellite tombe sur une ville et tue des gens? Il ne l'a pas dit comme ça, mais...
Comme tu as une chance de gagner au loto demain, oui.
Ben,
oui,
y a des gens qui gagnent au loto tous les vendredis. Hein.
Voilà, donc la probabilité n'est pas nulle. Alors, c'est toujours difficile quand on parle aux gens de probabilité, parce qu'on a tous un rapport à la probabilité, et pour ça que les gens jouent au loto, d'ailleurs. Je pense que c'est un bon exemple. Donc, la loi sur les opérations spatiales, elle limite ce risque à une valeur déterminée, voilà, qu'on calcule avec tout un tas de logiciels qu'on met à disposition, d'ailleurs, de tous les constructeurs de satellites français, hein, parce que la loi s'applique qu'aux Français. Donc ce risque, il est inférieur à une probabilité sur 10 000. Est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup de faire une victime lors d'une retraite structurée qui va se faire dans plusieurs décennies?
Et ça dépend d'où on est, puisque en Europe, on est plutôt safe, mais c'est vrai qu'en Chine, les second étages de lanceurs atterrissent souvent près de villages.
Ouais. L'avantage d'avoir un petit pays, voilà, c'est d'avoir moins de chance. Question physique-mécanique céleste. Pourquoi les débris ne se rassemblent pas par la force de la gravité en une espèce de petite lune autour de la Terre? Et on n'a rien à faire, finalement.
Alors,
c'est question de bim bam boum.
En orbite basse, ça ne rejoint pas. En orbite géostationnaire, on a un peu plus de chance. Il y a des puits, non pas de gravité, mais des forces à trois corps avec le Soleil, la Lune. Il y a des longitudes cimetières. Il y a trois longitudes cimetières, si mes cours de mécanique spatiale sont assez frais, mais tu as l'air de confirmer, qui existent, mais ça prend des décennies pour y arriver. En orbite basse, ben on ne lance pas du tout les satellites sur les mêmes orbites. Orbite polaire, orbite équatoriale à 800, à 1200 km. Et généralement, les perturbations ne sont pas assez fortes et puis ne font pas dans le même sens, en fait. Perturbations, elles vont ramener vers la Terre, généralement. Je t'en prie.
Sachant que donc là, on pense à la crétation planétaire. Hein, donc, si on avait des millions d'années devant nous, il y a des chances qu'effectivement ces débris se rassemblent. Sauf que on a quand même un petit peu de chance, c'est-à-dire que on en a pas parlé tout à l'heure, mais l'effet de Kessler sur une constellation qui est aux alentours de 300 km, il va se nettoyer par lui-même en 5-6 ans. Hein, ce qui n'est pas le cas si on fait une même constellation à 1000 km par exemple. Et donc ces débris, ils n'ont pas le temps de s'agréger pour pouvoir faire une petite lune, parce qu'ils vont retomber avant. Mais on parle de 100 ans, 200 ans.
Voilà. C'est pas linéaire. C'est, si vous êtes deux fois plus loin, ça ne va pas mettre deux fois plus longtemps à descendre. Ça augmente beaucoup plus rapidement en temps que ça n'augmente en distance.
À cause de la densité atmosphérique qui décroît exponentiellement, en fait. Hein.
Question de Luc Xio, j'ai encore deux questions, dont celle-là, qui est une question un petit peu théorique, rigolote. Pouvez-vous expliquer de manière simple le concept le plus compliqué que vous avez étudié actuellement?
Je peux me lancer si tu veux, Pierre. Blockchain, c'est le code entre nous deux. Alors, j'ai dit en gros mots, on pourrait imaginer... Je me suis lancé là-dedans, pourquoi je suis filmé, je suis fou.
Mais la blockchain, on n'aime pas trop sur Twitch,
c'est
mais
le
vas-y.
Le plus dur. Oui, on pourrait imaginer que l'accès à l'espace ne soit plus, comme aujourd'hui, libre et gratuit, sous réserve d'avoir un lanceur sous la main, mais de le conditionner à certains critères qui seraient encodés dans une blockchain. Typiquement, dans cette blockchain, qui serait sur Ethereum pour ne pas avoir un gros impact énergétique, hein, pas du Bitcoin, on pourrait encoder un algorithme qui disait « Bon, que fait ton satellite ? Observation de la Terre, ok, un bon point. Nettoyage de l'espace, ok, deux bons points. C'est du télécom, tout venant, 5G pour le grand public. Qui, voilà, peut-être pas un bon point. Ou alors, en fonction de l'orbite aussi. »
Question de...
Je crois que j'aurais juste... dire que je crois qu'il y a une ONG qui commence à se créer en France, qui s'appelle Cosmos for Humanity, je crois que c'est plutôt en Suisse, et qui commence à essayer de justement noter les
qu'on salue,
les
salut Claire.
Etc.
Salut Claire et David, on les a accompagnés dans leur émergence. Donc merci de les citer.
Kripa, oui, j'ai vu votre question, vous inquiétez pas. Mais j'ai une autre question, qui est parce que j'aime bien. Mais on peut dire, on n'en parle pas, d'accord? J'en ai parlé tout à l'heure. Kripa pose la question, les 40 000 satellites de Starlink, c'est un problème ou pas?
Donc, comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui, Starlink, ils sont aux alentours de entre 400 et 500 km. Donc, s'il se passait une catastrophe majeure, ils perdent, ou que l'IA devienne folle et que l'ensemble des satellites se mettent à se rencontrer, et que ce tas de débris soit là, ils seraient là pendant 5, 6, ça dépend de la taille, une dizaine d'années. Et après 10 ans, on aurait donc un espace propre. Donc j'ai envie de dire, forcément, c'est embêtant, mais c'est pas aussi dramatique que si le même système se passe à 1000 km.
D'accord.
Et il y a d'autres constellations prévues plus haut. Pas par, par SpaceX et Starlink, mais on peut penser à même Kuiper ou Iris Square, etc. Et même une constellation chinoise. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de satellites qui vont arriver.
Tu veux intervenir, Arnaud ?
Oui, c'est pour compléter, c'est que finalement, des constellations doivent aller plus haut parce qu'en réalité, la pollution, le syndrome de Kessler, il est déjà en train de se passer sur certaines orbites, donc les orbites Sun Synchronous, autour de 600 km. C'est déjà une orbite sur laquelle ça devient très compliqué de placer une charge utile. Hein. Enfin, pareil, je parle sous votre contrôle, mais on a beaucoup parlé de ça comme si c'était un futur absolument à éviter. En réalité, c'est une tendance qui est déjà en cours sur certaines orbites.
Effectivement, l'orbite dont tu parles, là, qui permet donc de prendre des images toujours avec le même éclairement, c'est une orbite donc qui est unique, finalement, et donc qui est utilisée depuis des décennies. Et là, il y a une densité de population qui fait qu'aujourd'hui, on a une augmentation du nombre d'objets catalogués qui n'est pas due à un ajout et de nouveaux lancements. Et donc, c'est effectivement le signe que le syndrome de Kessler, sur ces orbites-là, a déjà des prémices.
Fibre, juste les chiffres. Starlink, ça augmente chaque semaine. On a révisé avant de venir 5 500, 40 000, c'est la future génération. Iris Square, constellation européenne à venir. On n'a pas le chiffre exact, entre 100 et 200 satellites. On n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur.
Voilà,
bien sûr.
Question de Ramus Cates. Comment les débris spatiaux pourraient menacer? Est-ce que ces débris spatiaux peuvent menacer mission de ravitaillement pour l'ISS, par exemple?
Bien sûr. D'ailleurs, régulièrement, Hugo, vous le savez tous les deux, tous les trois, les astronautes, malheureusement, doivent enclencher les procédures d'urgence, se mettre dans la capsule, c'est quoi, Soyouz, c'est plus Soyouz, maintenant c'est la Crew Dragon, en cas de risque de collision avec débris. Ça arrive souvent lorsqu'il y a une éruption solaire ou une activité solaire intense.
Je crois que c'est Thomas Pesquet qui raconte dans son livre que justement, dès son premier vol, dans le deuxième vol, je crois, dans la Crew Dragon, en allant vers la Station Spatiale Internationale, ils ont eu affaire à cette alerte et ils ont dû se remettre en combinaison.
C'est un risque. Hein. Donc, il y a eu 32 manœuvres d'évitement réalisées par l'ISS entre 1998 et 2022. Mais c'est vraiment un risque qui pèse sur l'équipage. Et il faut savoir que donc l'ISS est blindé sur certaines de ses parties. Et ça permet de se prémunir du risque, on va dire, sur des petits débris qui sont clairement inférieurs à 1 cm. Après, les gros débris, ben ceux-là, on peut savoir où ils sont parce qu'on a des radars qui arrivent à les détecter. Ils ont une signature radar, ces débris suffisantes pour les détecter, donc éventuellement les éviter. Mais entre les deux, il y a une petite zone où c'est trop énergétique, donc ça nous fait mal, mais trop petit pour être détecté et qui fait peser un vrai risque sur la mission et sur l'équipage.
J'avais une question, je me permets peut-être.
Oui.
Pour les sorties extravéhiculaires, donc là vous n'êtes plus protégé par la station, vous connaissez le risque que vous encourez en une heure de sortie extravéhiculaire d'être percuté par un débris?
Alors moi je ne connais pas le chiffre. Étant donné ma grande expérience en sortie extravéhiculaire du nombre de zéros, je ne peux pas trop te dire ça. Mais je pense qu'en tout cas, c'est sûr qu'il est calculé. Et en particulier sur cette gamme dont je te parlais, la gamme indétectable, il est vraiment important.
7 km seconde, l'énergie cinétique, c'est 1/2 de mv². Ça doit vraiment transpercer comme du beurre, je pense.
Ah oui, bah tu as des images sur Internet où tu as une pièce, ça te fait un trou, mais monstrueux.
Un débris de 1 cm, c'est la même énergie qu'une voiture à 130 km/h sur l'autoroute qui prend un mur de face.
Big up à le problème à trois corps dans lequel des aliens tuent des soleils en envoyant un proton à la vitesse de la lumière dans le soleil, puisque voilà, l'énergie cinétique, ça dépend de la vitesse. Merci pour tout. On va conclure tout doucement. On va parler un petit peu métier. Est-ce qu'il fait bon travailler au CNES?
Alors moi, je suis fier de travailler au CNES. Je ne dis pas ça parce que je suis filmé avec la direction de la com' m'entend.
Et qu'ils ont un fusil aussi.
Voilà, il n'y a pas de fusil sans bâton, je crois. Notamment parce qu'on a mis en place cette loi sur l'opération spatiale. On était le premier pays. Je pense qu'on est... Tu l'as vu en visitant. Alors je ne dis pas ça pour faire la pub de ma boîte, mais on est une boîte de passionnés. Voilà, et je pense que c'est ça qui nous fait rester. Et tous les projets spatiaux du CNES passent par de la France passent par le CNES, puisqu'on propose et qu'on met en œuvre la politique spatiale française. Donc franchement, moi, dans ma carrière, j'ai déjà fait plusieurs missions, plusieurs métiers différents, des opérations, comme vous avez vu Clément et Valentin, aux avant-projets, maintenant innovation de rupture. Je ne sais pas si tu veux compléter ou avoir un autre avis, Pierre.
Oui, enfin, ce qui est génial dans cette boîte, c'est qu'en fait, on a des experts sur tous les domaines spatiaux. Donc, dès qu'on a une question ou qu'on a un problème, on va trouver des réponses. Et donc, on est entouré de science. Et quand on ne sait pas quelque chose, eh ben, on a les clés pour pouvoir développer un savoir. Tout à l'heure, je vous parlais de thèse. On lance des thèses. Il nous manque une question. Enfin, on a une question. Mmh. Et ben, on arrivera à motiver le management pour pouvoir travailler sur cette question. Il y a la science, et ça, c'est vraiment.
Il y a actuellement 200 postes ouverts qui ne sont pas réservés aux gens de l'espace. C'est-à-dire que si vous êtes ingénieur généraliste déjà, vous pouvez postuler à certains postes. Voilà. Il y a également, si vous n'êtes pas ingénieur, on cherche des comptables, des gens aux achats. Voilà, si vous travaillez comme responsable achat à Total Energy, vous voulez donner du sens à votre vie, ben, n'hésitez pas à postuler au CNES, même si c'est à Toulouse. Voilà, c'est joli Toulouse. Oui, j'imagine. Je voulais dire aussi un truc que j'ai remarqué en fréquentant le CNES, c'est que si vous avez une idée ou un projet, vous n'avez pas envie d'être. Vous avez une vision. Vous avez dit, moi, j'ai envie de construire une fusée dans mon jardin. En fait, vous pouvez contacter le CNES et vous pouvez leur dire, moi j'ai un projet. Et en vrai, si ça se trouve, si vous contactez un gars comme Sylvain, il va vous dire, c'est très intéressant, on va le financer en vrai, et on va vous mettre des ingénieurs. Donc si vous avez des projets, si vous voulez conquérir l'espace, vous avez des idées nouvelles, si vous êtes l'Elon Musk toulousain, n'hésitez pas à les contacter, ils répondent, et en fait à créer finalement votre métier au CNES, d'une certaine façon, plutôt que de répondre à un poste. Voilà.
Je vais peut-être compléter, on a mis en place, on a aidé l'émergence de Open Space Makers, qui est une association, on peut appeler ça un réseau de Fab Lab, qui permet à tout un chacun, dans le Fab Lab le plus proche de chez lui, de faire du spatial. On s'est préoccupé de tous les aspects administratifs, juridiques qui pouvaient exister, puisque faire un lanceur, c'est faire un missile. Donc il a fallu négocier tout ça, et c'est en place. Donc Open Space Makers, allez-y.
Voilà. Et puis là, il y a, on va dire, des centaines de personnes qui nous regardent. Effectivement, si vous avez un collectif de passionnés mené par Hugo, on va créer la fusée d'Hugo. En vrai, moi, je serais toi, j'en ferais une, au moins avant d'arrêter la carrière Twitch.
Il y a beaucoup de clubs de fuséologie aussi, et qui ont une chance incroyable en France, c'est qu'on a un événement qui s'appelle le C-Space, où ils peuvent, sous le contrôle en plus des experts du CNES, tirer des fusées. Donc c'est super intéressant, on y a été avec Arnaud, et le spectacle est trop bien. Et il y a des étudiants même de l'Europe entière qui viennent, parce que c'est un truc assez exceptionnel.
Voilà, mais je pense aussi, je m'adresse aussi aux informaticiens, aux programmeurs. Sans dévoiler un secret confidentiel défense, effectivement, par exemple, pour les collisions, aujourd'hui, ils n'utilisent pas la technologie de l'IA. Et c'est très bien parce qu'il n'y a pas de rétro-ingénierie possible sur le sujet.
On le dit d'ailleurs.
Oui, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui dit, écoutez, moi, je vous ai entendu, j'ai envie de faire un truc sur IA, Welcome. Donc, si vous avez, n'hésitez pas à être force de proposition. Et voilà. C'est ce qui s'est passé un peu avec moi, puisque effectivement, par l'intermédiaire de Canada, qui est l'agence, moi, je leur ai dit, vous devriez contacter CNES, on fait un jeu de rôle, c'est trop bien. Et effectivement, ça a pris 3 ans pour faire le premier épisode, puis 2 ans pour faire le deuxième épisode. Mais le CNES a été à l'écoute, parce que c'était un projet structuré.
Et on organise de plus en plus de challenges pour susciter l'innovation parmi des acteurs du spatial ou non. Donc il y a le challenge éco-conception récemment, il y a le challenge espace durable l'année dernière. Je vous annonce en prime time la deuxième édition du challenge espace durable cette année par mes équipes. Donc bon, il faut avoir un numéro SIRET, ça ne reste pas aux particuliers, mais quand même, même si vous êtes auto-entrepreneur, on a travaillé avec des auto-entrepreneurs dans ce cadre-là, ça n'empêche pas d'avoir des super idées. Et on vous accompagnera.
Très bien. Alors, on va. Le mot de la fin, et je passe au remerciement. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ?
Non, c'était génial.
Okay, c'était bien. C'était le premier jeu de rôle, c'était sympa ?
Ouais, c'était mon premier jeu de rôle. Donc, franchement, merci beaucoup. Okay. Je me suis beaucoup amusé, c'était génial.
Très bien. Parle-en à l'armée de l'air et de l'espace. J'ai fait un truc bien, parce qu'eux, ils ont de l'argent.
Je sais pas.
Voilà.
Mais ok.
Je taquine.
Merci pour ton accueil, pour l'animation du jeu et tout. Ça doit pas être facile.
Ouais, et puis je t'ai vu stressé de temps en temps, ça m'a fait du bien.
C'était pour te faire plaisir.
Donc, c'est bon, ça s'est bien passé pour vous. C'était intéressant.
Moi, je trouve que les joueurs ont fait honneur au scénario. Ouais. Donc, merci.
Voilà, et c'était intéressant ils ont bien réagi, Et bon, voilà, c'était. Il y a plusieurs choses qui étaient bien. En tout cas, je remercie mon remerciement aux modérateurs Twitch, aux équipes techniques, aux invités, au public. Merci à vous. Je rappelle que le jeu Orbital Dance disponible sur iOS et Android, pas tout de suite la semaine prochaine, mais notez-le. Voilà. En fait, ce jeu de rôle, c'était un peu le lancement de ce jeu. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux du CNES également. Tiens, Arnaud, c'est quoi ton réseau social ?
Alors, moi, je suis sur LinkedIn, donc du coup...
Non, Twitter.
Voilà, Twitter aussi, donc Arnaud Astro et sur Instagram.
Voilà, ok. Voilà. Toi, on te connaît, c'est bon. Mais vas-y.
Ouais, c'est pareil, moi, c'est Hugo Lisoire sur tous les
réseaux. Non, il n'y a pas de LinkedIn ici. Et effectivement... Ah, bah alors, j'apprends que le 28 février... Il y aura un React du JDR. Donc, en fait, il y a Valentin et Clément qu'on a reçus là tout à l'heure, qui étaient aussi les. Qui vont dire ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai. Mais en deux mots, parce que moi, j'ai visité le CNES et j'ai fait ce scénario. C'est, enfin, pour moi, c'était une compilation d'anecdotes. C'était relativement ce qui se passe.
Oui, alors les cyberattaques depuis la cantine, on essaye d'éviter quand même. Mais blague à part, sur les aspects centraux du jeu et à l'ère de collision, les relations avec les partenaires, vous avez touché dans le mille.
Très bien.
Juste, n'oubliez pas que dans 13 minutes, il y a l'atterrisseur Novacé qui tente d'arriver sur la Lune, normalement. Donc, on va essayer de suivre
et
ça.
Et il y a de l'IA derrière aussi.
Ah ouais, c'est ça. La méthode, l'atterrissage sur la Lune est contrôlé par...
J'imagine que le CNES, restez sur cette chaîne, le CNES va, je pense, raid la chaîne de la NASA.
Ça a été décalé de quelques heures.
Donc on va raid Antoine Daniel, qu'on salue. Voilà. Ouais. Merci beaucoup et merci au CNES. À bientôt.
Bye.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.